L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. La capacité de mobiliser une équipe, c'est une compétence de gestion hautement convoitée. On pourrait même dire que c'est le Saint Graal des compétences, en quelque sorte, parce que quand on réussit à susciter l'adhésion à nos projets, quand on donne envie à nos collaborateurs d'atteindre un objectif qui est commun, eh bien, tout est possible. On peut réaliser de belles et de grandes choses. Et à la base de toute mobilisation, il y a un gestionnaire qui a d'abord de bonnes habiletés en communication. C'est à ça qu'on pense. Que ce soit pour présenter un nouveau projet, pour faire le suivi d'une situation ou dans les relations quotidiennes avec les employés, un gestionnaire communique constamment. Mais comment communiquer pour mobiliser, pour inspirer, pour faire résonner une vision dans notre équipe? On explore ce thème aujourd'hui à Balada QCS.
C'est su, c'est connu, ça fait partie de plein d'outils pour la gestion du changement, de faire participer, c'est créer de l'adhésion. C'est pas plus compliqué que ça. Puis l'idée, c'est pas de toujours faire participer tout le monde, parce que là, tout de suite, je verrais les gestionnaires se dire « Mais mon Dieu, Nathalie, ça prend vraiment trop de temps. On n'a pas ce temps-là, effectivement. » C'est d'y aller stratégiquement. Quand est-ce que ça va vraiment compter? Qu'on sait que les risques sont trop grands si on les fait pas participer pour susciter un engagement.
Autour de la table avec moi aujourd'hui, Nathalie Poirier, consultante, formatrice, animatrice, coach professionnel ACC spécialisé en neurosciences. Lab Connexion, c'est son entreprise, Académie de leadership. Grand titre, Nathalie?
Salut, Taïna.
Annie Goyette, directrice adjointe, Bureau des communications, Service des activités institutionnelles, de la gestion stratégique et de l'approvisionnement au Centre de services scolaires de Laval. Bonjour, Annie.
Bonjour, Taïna.
Merci d'être avec nous. Et Mathieu Desjardins, directeur, service de l'organisation scolaire au Centre de services scolaires de Montréal. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Taïna.
Alors, on va revenir à vous dans quelques minutes, le temps d'en apprendre davantage sur notre sujet, sur notre experte invitée. On va percer les secrets d'un gestionnaire excellent communicateur qui sait rallier ses troupes, qui suscite l'adhésion à tout coup ou presque, hein, parce que c'est jamais la perfection, mais quand même. Alors, on le décrit comment ce gestionnaire? C'est quoi son profil? Les outils qu'il utilise? La stratégie qui le rend peut-être infaillible?
C'est la grande question. Puis tout de suite, d'emblée, j'ai envie de dire, je pense pas, Taïna, qu'il y ait un profil type. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les personnalités. Puis c'est ça qui fait la beauté. Hein. On n'a pas le même profil des équipes. Donc, heureusement, c'est important qu'on ait des gestionnaires différents. Idéalement, on est complémentaires. Donc, déjà d'emblée, je voulais préciser ça. Ça serait le fun d'avoir une baguette magique puis dire, hey, c'est ça qu'il faut que je développe. Parfait, j'ai la recette magique. Mais non, il faut d'abord se connaître. Je dirais, c'est peut-être le meilleur point de départ, se connaître. Et ça, déjà d'avance, c'est pas toujours gagné.
Comment on teste la complémentarité? Une fois qu'on a fait l'introspection, qu'on a appris à se connaître, qu'on sait avec qui on aime collaborer, maintenant, comment on fait pour arriver dans le bon univers?
On dirait que ce que tu me dis là, c'est la route vers comment on fait pour connaître son équipe. Parce que pour savoir si on est complémentaire, il faut d'abord connaître son équipe. Et pour ça, ben, j'irai avec la compétence numéro un. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Harvard. J'ai lu une fois dans un article qui disait que la compétence numéro un, moi qui est une ambassadrice de la communication, j'espérais que ça allait être ça que j'allais lire, mais non. Taïna, c'est être curieux.
Être curieuse,
c'est la compétence numéro un à posséder. Puis en même temps, quand on y pense, ça va de soi être curieux pour être vraiment au goût du jour dans tout ce qui se fait, peu importe notre expertise. Mais en même temps, je vous dirais encore plus être curieux des humains, des êtres humains qui constituent nos équipes, être curieux de ce qui les motive, ce qui les passionne, là où ils se voient. Et pour ça, ben, je pense qu'il faut être dans l'écoute active, hein, poser des questions ouvertes, s'intéresser à ce qu'ils font et surtout être sur le terrain, être là le plus possible, être présent pour avoir ces merveilleuses conversations de corridor ou encore celles autour de la machine à café. Puis là, ben, je sais, tu vas me dire, oui, mais là, qu'est-ce qui arrive si on est en télétravail? Ben, il faut les provoquer. Il faut trouver des occasions pour se rencontrer et créer et tisser des liens.
Et la curiosité provoque aussi l'ouverture d'esprit. Ça va de soi. Alors, ça aide également à la collaboration, à de meilleurs liens, de meilleures relations. Est-ce qu'on a des stratégies gagnantes? Est-ce qu'on a des éléments qui font en sorte qu'on connaît plus de succès que d'autres?
Oui, certainement. Il y en aurait plusieurs, mais disons que pour moi, la principale, c'est d'abord, pour motiver les autres, il faut être soi-même motivé. Je pense que tout part de soi. Donc, il faut aller oser faire une introspection puis se demander si moi, je me trouve où en ce moment dans l'organisation puis dans mon envie de m'engager et d'être inspirante et d'être motivée. Donc, si ça, c'est pas au rendez-vous, ben il faut aller faire un travail sur soi puis il y a plusieurs façons de le faire. Se faire accompagner par un coach, avoir un mentor, prendre une pause parce que ça aussi, parfois, c'est nécessaire pour se retrouver, prendre une pause, ralentir pour ressentir. J'aime beaucoup dire ça, en ralentir pour ressentir. Ce n'est pas toujours par là qu'on nous pousse hein, à aller. Donc, il faut être persévérant puis déposer nos limites si parfois il faut ralentir pour mieux se redécouvrir. Donc, ça, ce serait la première chose. Puis ensuite, ben, c'est d'avoir peut-être trouvé un objectif commun ensemble et d'en parler et de le communiquer. De peut-être faire participer les gens aussi à trouver ces objectifs-là communs, à nommer entre autres les valeurs d'une équipe pour les faire vivre et les reconnaître et en parler sur. Surtout, je dirais, ce serait probablement une stratégie gagnante pour qu'on puisse tous se rallier à un objectif commun, ramer dans la même direction. Et parfois, Taina, les gens vont prendre le temps de le faire une fois, puis ensuite, les années vont passer. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et là, on va oublier de retourner visiter ça. C'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on place dans un document officiel, qu'on met sur un site Internet, puis qu'on ne revoit plus. Il faut garder ça actif, vivant, ramener ça dans les heures du jour et se dire, par exemple, je donne un exemple, hey, cette semaine, notre valeur, c'est la collaboration. J'aimerais ça qu'on donne un coup de chapeau à une personne qui a vraiment là, été en adéquation à cette valeur-là. Et donc là, quelqu'un offre un coup de chapeau à un membre de l'équipe. Ça ne doit pas seulement venir de la direction, ça peut être fait entre les collègues aussi.
On ne fait jamais l'unanimité. Dans une salle de réunion, il y a des sceptiques, il y a des gens qui sont réticents, il y a des gens qui embarquent plus ou moins, ça dépend du sujet. Il y a des comportements, des attitudes qui sont parfois plus négatives également. Comment on gère la diversité d'opinions quand on communique notre vision en tant que gestionnaire?
Je pense que c'est jamais 100% de notre côté, ni 100% du côté des gens qui sont devant nous. Je pense que quand je disais tout à l'heure que tout part de soi, il faut aller oser s'introspecter et se demander, est-ce que, moi j'ai quatre piliers de l'adhésion, je les appelle les quatre C. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que j'ai été concise dans la façon de dire les choses? Est-ce que j'ai été connectée émotionnellement, là, tu sais, tête, cœur, corps, comme j'aime dire, là, pour être vraiment en adéquation, là? Est-ce que j'ai donc été connectée émotionnellement quand je leur ai livré mon message pour qu'ils adhèrent? Et est-ce que je suis crédible? Donc, quand ces quatre C-là sont au rendez-vous, on a plus de chances de créer de l'adhésion et peut-être avoir, en tout cas, sans viser l'unanimité, mais avoir beaucoup de personnes qui vont adhérer au message. Si on ne se sent pas connecté, si on n'est pas authentique, ben peut-être qu'il faudrait aller voir pourquoi. Hein? Peut-être que ça peut être une partie de la réponse. Sinon, ben, je pense qu'il faut aussi, de façon balisée et encadrée, en déposant un cadre, je pense que c'est sain d'ouvrir la discussion à des gens qui ne seraient pas d'accord. Parfois, simplement d'en parler vient apaiser les choses et de permettre donc à ces personnes-là qui ne partagent pas la même vision de s'ouvrir et d'en parler. C'est riche. Et on dit aussi dans nos écoles hein, qu'on aime la diversité, qu'il faut l'embrasser. Bien, il faut aussi faire ça dans nos rencontres. C'est correct qu'on ne soit pas tous d'accord.
Comment on fait ça, Nathalie? En privé, une semaine après la réunion? Est-ce qu'il y a un moment précis pour le faire? J'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Comment le faire? Ben, il faut être nous-mêmes ouverts à ça. Là. Il faut aller se questionner. Est-ce que je suis dans, tu sais, je suis responsable de l'énergie que j'apporte dans la pièce? Donc, moi, est-ce que je suis ouverte? Est-ce que j'arrive avec l'énergie pour dealer avec ça aujourd'hui? Et je pense que quand on voit qu'il y a une contrariété dans les opinions, dépendant du sujet, ben, on peut aussi dire, écoutez, je pense que les esprits s'échauffent. C'est un sujet important. Puis en ce moment, on n'a pas le temps de vraiment donner toute la place que ce sujet-là mérite. Alors, qu'est-ce que vous en diriez si on prend ce sujet-là et on le met en numéro un lors de notre prochaine rencontre. Parce que pour ouvrir, pour permettre aux gens de s'ouvrir, il faut qu'ils sentent qu'il y a du temps. On ne peut pas être pressé quand on fait ça, parce que sinon, ce n'est pas une véritable écoute. Alors, de le placer au bon moment et de permettre aux gens de réfléchir, et le temps, c'est un allié. Donc, parfois, juste le temps entre cette réunion-ci et la prochaine, il y a des choses qui vont s'être apaisées, des réalisations qui vont se faire, et nous, on aura le temps en même temps de se préparer, parce qu'il faut les préparer, ces rencontres-là. Il faut que ça demeure constructif, il faut que ce soit respectueux dans la façon d'aborder les sujets, et ensuite de croire profondément que la diversité va amener une richesse à la table et de construire là-dessus finalement.
Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous consulté notre calendrier d'activités de perfectionnement qui se trouve sur notre site Internet au www.aqcs.ca? Chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre AQCS, n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques.
Annie Goyette du Centre Service scolaire de Laval, Mathieu Desjardins du Centre Service scolaire de Montréal. Je regarde vos yeux. Qu'est-ce que ça résonne en vous? Qu'est-ce que vous venez d'entendre de la part de Nathalie?
Ça résonne beaucoup chez moi. Je trouve ça très pertinent. Et j'aime quand on dit on prend un pas de recul pour revenir avec un sujet. Et dans la préparation, l'intention, mais aussi les questions. Je pense que de poser les bonnes questions à notre équipe pour leur permettre de s'ouvrir et de venir mettre le doigt sur les gains qu'on va pouvoir faire collectivement, c'est une autre belle façon là, de susciter l'adhésion.
Je pense que c'est beaucoup aussi dans la préparation. Donc, souvent, on va anticiper, comme leader, comme animateur de la rencontre, on va anticiper les enjeux qui pourraient survenir pendant la rencontre. Donc, c'est parfois important de les intégrer dans notre présentation. On avait pensé à telle solution, par contre, voici les raisons qui nous ont amenés plutôt à aller d'un autre côté. Donc là, les gens vont dire, ah ben oui, c'est pas parce qu'il n'a pas pensé, c'est pas parce qu'ils veulent pas le faire, ils ont pensé. Donc déjà là, on va rallier certaines personnes. Parfois aussi, c'est important d'aller en amont. Donc on connaît nos gens, on connaît nos leaders, on connaît chacun les enjeux que nos employés peuvent avoir. Donc de prendre quelques minutes en amont, parfois la veille, de dire, écoute, on va parler de ça demain, je voulais savoir ce que tu en penses, puis ah oui, OK, effectivement, je pourrais intégrer ça. Donc déjà là, ça rallie énormément. Et on sent la salle aussi, là, quand on fait une présentation, quand on est devant nos employés, on le sent, là, on voit où sont les enjeux. C'est pas tout le monde qui va avoir le courage de lever la main ou de dire, ben je suis pas d'accord devant tout le monde, mais quand on le sent, on les laisse pas partir avec ça. Donc, on s'organise pour les croiser dans l'ascenseur ou ailleurs et dire, es-tu convaincu? Qu'est-ce qui. Donc, ça, c'est quand même important là, dans tout le processus.
Parce qu'on se rappelle que les cadres scolaires doivent mobiliser leurs équipes pour l'atteinte de plusieurs objectifs, entre autres plan d'engagement vers la réussite, plan de mise en œuvre du plan stratégique pour le centre de service scolaire, la commission scolaire, les plans d'action aussi pour le service administratif. Alors, il y a plusieurs défis. Vous vous retroussez les manches au quotidien, je pense. Annie, Mathieu, j'ai le goût de vous entendre. Peut-être un témoignage, une anecdote, une belle histoire que vous avez sur une stratégie que vous avez déployée pour viser la mobilisation de votre équipe qui a été fructueuse. Vous avez connu un beau succès.
Je vais remonter il y a un certain temps quand j'étais directeur d'école. Donc, avant d'être cadre scolaire, j'étais directeur d'école et on avait un certain enjeu, là, sans rentrer dans les détails, sur la réussite des élèves dans un niveau donné, d'une matière donnée. Il y avait plusieurs stratégies qui avaient été tentées avant mon arrivée. Et on était souvent dans soit un leadership technique ou un leadership hiérarchique là, qui disait, bien, on va aller dans cette façon-là, puis voici la bonne façon de faire. Et ça ne donnait pas les résultats du côté des élèves, mais ça ne donnait pas les résultats non plus du côté de la mobilisation de l'équipe. Donc, j'ai décidé de le prendre autrement et d'aller vraiment avec plutôt un leadership démocratique et dire, bien, on va s'asseoir ensemble et vous allez nous sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça réussisse? Moi, je vais m'organiser pour que les ressources nécessaires soient au rendez-vous. Donc, on a travaillé ensemble avec l'équipe matière de ce côté-là et on a mis en place là, une stratégie de clinique. Donc, il y avait des cliniques pour les élèves en difficulté après les classes. Donc, on a mis ça en place et on a vu une amélioration sur les résultats des élèves, ce qui était le plus important dans notre processus, mais on a également vu une mobilisation au niveau des enseignants de cette matière-là. Donc ça, ça a été un gain que ça fait plusieurs années, là, ça fait quelques années, mais j'y repense encore régulièrement.
Ça a été motivant pour tout le monde. Nathalie, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça m'allume le fait que Mathieu n'ait pas lâché prise, n'ait pas abandonné le dossier, a plutôt tenté de faire autrement et est allé beaucoup dans la concertation, la participation. Vous, qu'est-ce que vous feriez?
Bien, j'aurais fait la même chose que Mathieu, c'est simple comme ça. Donc, vraiment, là, pour moi, Mathieu a mis le doigt sur quelque chose de super important. Donc, de faire participer les gens qui sentent qu'ils aient une voix à la table va davantage favoriser ensuite l'adhésion, puisqu'ils vont avoir eu la chance là, de mettre un peu leur grain de sel là-dessus.
Annie, j'ai le goût de vous entendre sur votre plan d'engagement vers la réussite. Ça demandait beaucoup de changements. Il a fallu du temps pour s'approprier tout ça. Parlez-nous-en.
Oui, chez nous, en fait, le plan d'engagement vers la réussite venait avec un nouveau modèle de pilotage qui amenait des changements importants quand même dans l'organisation sur la manière dont on menait nos opérations et nos projets. Chez nous, ce qui a permis de susciter l'adhésion, je pense que c'était de rendre ça le plus concret possible. Donc, le PVAR, ce sont les grands objectifs. Mais maintenant, concrètement, dans nos équipes, et je rebondis un peu sur ce que Nathalie nommait, quand on connaît les gens et ce qui les motive dans notre équipe, on est capable de faire des liens entre les grands objectifs et à plus petite échelle, dans notre équipe, comment on va venir générer des gains. Je pense que quand on est capable de nommer aussi qu'on va vivre un inconfort, tout le monde ensemble, parce qu'on est en train de développer une nouvelle compétence et que cet inconfort-là, c'est sain qu'on puisse le vivre ensemble parce que ça va nous amener à être meilleurs et puis qu'on n'ait pas peur de le dire puis de les nommer, nos inconforts, mais ça peut nous amener ailleurs et faire vivre cette adhésion-là parce qu'on comprend qu'on est en train de vivre ce changement-là ensemble et que ça nous amène ailleurs.
Ça doit aider ça, Nathalie, la sensation d'être en gang.
Oui, c'est vrai. Puis on peut voir en fait l'effet de cet esprit de tribu-là quand tout le monde embarque, quand tout le monde s'engage, les gens participent aux réunions, le langage non-verbal du corps des gens qui sont devant nous. Hein. Mathieu tout à l'heure parlait de « on le sent, on le voit quand il y a un désengagement ». Je dirais qu'à l'inverse aussi, les gens vont lever leurs mains, vont participer. Même les plus introvertis, on va être capable d'aller les chercher. On va sentir un climat d'ouverture, de confiance. Les vraies choses vont se dire à la table. On peut même le mesurer, puis là, je ne sais pas si vous connaissez ces outils, mais il y a des outils qui nous permettent de mesurer avec des chiffres l'engagement de nos équipes. Je pense entre autres à Office Vibe que l'équipe de Desjardins a utilisé pendant la pandémie. On allait solliciter aux 2 semaines, selon certaines sources, l'engagement des gens. Comment est-ce que vous trouvez votre équipe? Comment est votre relation avec votre patron? Comment est votre relation avec vos collègues? Allez-vous bien? Donc, un bonhomme sourire vert, jaune, rouge. Donc, la multiplication de ces sondages-là nous permettait d'avoir peut-être une vue plus macro sur l'évolution du bien-être des gens. Donc, on peut le faire, c'est nous qui pouvons pondre nos propres questions. Donc, on peut venir mesurer l'engagement, le taux d'engagement des gens. Ça, c'est un outil, mais il y en a plein d'autres. Donc, on peut amener tranquillement, pas vite, des outils, même dans le milieu scolaire, pour nous aider à nous guider comme gestionnaire puis avoir une vigie en tableau de bord.
Annie, Mathieu, avez-vous des suggestions pour nous? Avez-vous des outils, vous, au quotidien, qui fonctionnent bien?
Je dirais que la reconnaissance, c'est un autre outil qui est très, très puissant. On dit que 90 % des employés qui vivent la reconnaissance ou un merci de la part de leur patron vont avoir plus confiance en leur gestionnaire. Donc, c'est fort. Donc, ça met en lumière aussi l'importance quand on veut faire vivre des changements ou quand on veut mobiliser nos équipes, de miser sur leurs forces puis sur le petit plus qu'ils peuvent amener dans cette gestion de changement-là.
Mathieu, est-ce que vous faites des sondages? Est-ce que vous faites des rencontres d'équipe pour aller chercher le pouls de la situation?
Oui, on en fait. Donc, parfois, là, quand il y a certaines décisions qui sont prises, qu'on sent qu'il y a différents enjeux dans l'équipe, donc on va faire un sondage. Ce qui est important, c'est de revenir vers l'équipe. Donc, de revenir avec les résultats, de revenir pour démontrer ce qu'on a fait avec ce sondage-là, avec ces éléments-là qu'on est allé chercher. Parce qu'il n'y a rien de plus désengageant pour quelqu'un que de travailler et se dire, mais finalement, ça n'a servi à rien, j'ai pas réussi à influencer. Donc, c'est important quand on le fait d'y revenir à la prochaine rencontre ou d'une autre façon en disant, voici, on a travaillé de cette façon-là. Je vous avais dit qu'on maintenait le cap, mais qu'on allait aller chercher le pouls. Et le pouls nous dit que, ben oui, finalement, on va faire une certaine adaptation. Donc, ça, c'est très important.
C'est tellement vrai, Mathieu, ce que tu dis. J'ai vu la situation inverse trop souvent se produire. Donc, des gestionnaires qui ont voulu sonder et qui n'ont pas communiqué les résultats ou qui n'ont pas nommé le fait qu'ils s'étaient inspirés des idées des troupes pour les mettre de l'avant. Et malheureusement, les fois d'après où ils étaient consultés, les employés disaient « ben, ça sert à rien. Mes idées, nos idées ne sont pas retenues. Puis de toute façon, quand je donne mon point de vue, ce n'est pas pris pour compte. » Quand ce n'était pas le cas, les gestionnaires avaient changé les choses. C'est simplement qu'ils l'avaient mal communiqué sur une plateforme peu lue. Et c'est malheureux. Hein? C'est la communication, on ne pourra pas le dire assez, c'est super important de le dire, mais aussi de le redire et de le rappeler très souvent que ça a servi grâce à vous, on est rendu là, on vous a entendu, on vous a écouté, voici les mesures qui sont prises considérant les résultats reçus. C'est vraiment, vraiment très, très important.
C'est bien beau d'avoir des outils, mais il faut savoir les utiliser aussi et peut-être en parcimonie parce que il y en a peut-être qui peuvent avoir des réactions. Ben, il est étonnant, lui, il revient avec ça, puis encore une fois cette semaine, puis coudonc, on va-tu arriver à quelque chose à un moment donné? Ça peut avoir l'effet inverse aussi.
Effectivement, ça peut donner l'impression qu'on ne veut pas prendre de décision. Donc, on ne sait pas où on s'en va. Donc, si on est toujours à surconsulter et dire, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a aussi cet enjeu-là parce que dans le leadership, il y a différents types de leadership qui vont être appliqués à différents endroits. Je pense qu'il y a un élément important qu'il faut insister. Oui, la connaissance des équipes, mais aussi la confiance. Donc, la confiance en soi. Donc, il faut avoir confiance en soi pour aller consulter. Souvent, quand on refuse de consulter, c'est qu'on a peut-être un enjeu de confiance, mais confiance en ses équipes aussi. Donc, ça, c'est un élément très important dans le leadership. La confiance en soi va entre autres nous permettre de former des équipes complémentaires. Donc, en sachant nos forces, nos faiblesses, on va venir combler nos faiblesses avec notre équipe plutôt que de vouloir se conforter avec des gens qui pensent comme nous. Donc, c'est important ça, l'enjeu de la confiance dans le leadership, c'est une pierre angulaire.
Qu'est-ce qui peut fragiliser, démobiliser des gens autour de nous?
Je pense que c'est peut-être le fait de ne pas être convaincu soi-même du changement qu'il a apporté ou de la décision qui a été prise. Je pense que c'est important comme gestionnaire qu'on prenne le temps d'intérioriser la décision ou l'angle de communication qu'on doit aborder avec nos équipes pour trouver justement le gain, l'élément concret qui va faciliter l'adhésion. Sinon, c'est effectivement un risque auquel on s'expose.
Si on a les gens s'imaginent ou ont l'impression qu'on n'est que dans le top-down, donc que tout se prend en haut et qu'il n'y a aucune considération pour ce qui se passe en bas, c'est très démobilisant. Je ne dis pas que les décisions ne doivent pas parfois venir du sommet, il faut juste que s'assurer de bien les ancrer dans ce qui touche les employés, dans ce qui touche les équipes, pour pouvoir aller de l'avant.
Mm-hmm. Dans le même ordre d'idée, j'ajouterais que le manque de logique, le manque de cohérence, justement, parfois parce que c'est top-down, va amener, je pense, cette fragilisation-là. Tu sais, on va perdre confiance parfois envers la direction quand les babines ne suivent plus les bottines.
Outre notre intuition personnelle, comment on peut mesurer la mobilisation ou la démobilisation des gens de notre équipe? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Comment vous vous y prenez au quotidien, Annie, Mathieu?
Et nous, on s'assure que les gens dans l'équipe ont quand même toujours du plaisir dans ce qu'ils font. La notion de plaisir est importante. Quand on aime ce qu'on fait, on est davantage mobilisé. On travaille aussi avec un outil qui s'appelle la charge énergie. Donc, une fois par mois, en rencontre d'équipe, on va venir voir comment nos équipes se sentent par rapport à leur charge de travail et par rapport à leur niveau d'énergie. Et ça amène des belles discussions et ça nous permet de voir que quelqu'un qui se sent toujours en surcharge et qui sent qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, bien souvent, on va voir aussi une démobilisation dans les différents mandats. Donc, ça nous permet d'intervenir rapidement et d'avoir un échange qui est bienveillant, qui se veut positif aussi avec les membres de l'équipe pour voir comment on peut travailler sur les mandats de cette personne-là, mais aussi s'entraider en équipe. Donc, c'est normal des fois que certaines personnes vont vivre des moments dans l'année scolaire qui sont peut-être un petit peu plus costauds. Donc, comment on peut venir s'entraider? Donc, c'est un bel outil qui fonctionne bien chez nous.
Personnellement et professionnellement, on connaît tout le monde des périodes difficiles, des moments de crise. Quand on est dans un contexte de gestion de changement, comment on fait pour préserver nos acquis, maintenir la mobilisation, l'orienter vers des nouveaux objectifs? Il y a peut-être des erreurs qu'on peut éviter, peut-être qu'en le sachant, en donnant quelques trucs et conseils aujourd'hui, on va avoir un drapeau et puis on va penser autrement pour la prochaine fois.
Mais je pense que c'est important de s'ancrer. Donc, justement, là, si on revient au voilier, quand on est dans la tempête, l'idée, c'est vraiment de s'ancrer pour s'assurer là, qu'on ne perde pas le nord. Donc, revenir à nos valeurs de base, revenir à notre mission. Notre mission, c'est dans les centres de service, c'est de faire réussir les élèves. Donc, quand on se raccroche à ces missions-là et aux valeurs de l'organisation, chez nous, on a des valeurs qui, c'est la bienveillance, l'efficacité, l'engagement et l'audace qu'on met de l'avant au Centre de service scolaire de Montréal. Donc, on se rattache à ces valeurs-là parce qu'effectivement, il y a des décisions plus difficiles qui vont devoir être prises, mais il faut s'assurer de bien faire comprendre que oui, effectivement, ça peut paraître comme une décision top-down qui n'a pas été prise dans l'intérêt de tous, mais c'est parce que chacun a parfois une partie du casse-tête. Et quand on regarde l'ensemble du casse-tête, là, on comprend pourquoi on prend ce type de décision-là. Donc, je pense que c'est vraiment important dans les moments les plus difficiles, justement, d'expliquer davantage les décisions, l'impact que ça peut avoir sur l'élève, sur les écoles. Donc, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là là, où il faut s'assurer de s'ancrer le plus possible dans notre mission et dans nos valeurs.
Je vais vraiment dans le même sens que Mathieu. Quand on parle d'un casse-tête, pour moi, c'est vraiment de créer du sens. Comment on donne du sens à cette situation-là qui est difficile? Je pense que toujours dans le même sens, quand on vient s'ancrer, c'est de bien cerner ou de bien identifier notre intention. Quelle est la posture d'écoute qu'on souhaite susciter chez les membres de notre équipe? Comment on veut avec quoi on veut qu'ils repartent à la fin de cette rencontre-là? Donc, toujours un petit truc qu'on a au Centre de service scolaire de Laval, c'est vraiment d'identifier bien, quelle est notre intention et quels sont les 2-3 éléments qu'on souhaite retenir de cette rencontre-là. Donc, ça vient camper un peu la posture d'écoute et souvent, c'est très, très aidant là, pour communiquer une situation peut-être plus difficile et... Il y a bien entendu là, les principes, nous on appelle ça les principes directeurs. Donc, quels sont les principes ou les valeurs sur lesquelles on va venir s'appuyer qui vont venir donner de la cohérence à ce qu'on est en train de communiquer?
Nathalie, il y a un élément que Mathieu nous a partagé et qui m'allume dans le sens de si ça ne nous interpelle pas, si on ne se sent pas mobilisé par ce dossier, par ce sujet, l'idée de penser à quel impact, quelles conséquences que ça va avoir sur d'autres clientèles, sur d'autres publics. Donc, je sors un peu de mon cocon et là, je pense autrement, plus large. Et là, je me dis, je pourrais peut-être faire un effort. Moi, ça ne me concerne peut-être pas aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres que ça touche.
J'ai comme le goût de faire 3 pas en arrière. Si on n'est pas d'accord avec une décision, je pense qu'il faut prendre un pas de recul jusqu'à temps qu'il y ait un petit bout de la décision qui fasse sens. Parce que si on s'en vient communiquer quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais je pense qu'il faut essayer de se rallier à une petite partie de la décision, que ce soit l'expertise de nos gestionnaires, leur expérience, ils ont peut-être des chiffres qu'on n'a pas eu le temps de voir encore. Peu importe c'est quoi, il faut essayer de trouver la raison pour laquelle ça fait sens pour nous parce que ça va être repéré tout de suite par nos équipes, que ce soit par notre paraverbal, le ton sur lequel on va le dire. Malgré nous, hein, parfois on laisse dépasser des fils puis c'est inconscient. Parfois, c'est notre posture physique, là, notre non-verbal qui va trahir notre message. On sait que les mots, hein, le verbal, compte seulement pour 7% de la compréhension du message. Donc, le reste peut apparaître à notre insu. Donc, il faut absolument être cohérent dans l'approche qu'on va avoir, quitte à dire on n'est pas complètement d'accord, mais on comprend pourquoi. Puis à ce moment-ci, on a besoin de se rallier. Donc, pourquoi cette orientation-là, est-ce qu'elle a été décidée? Essayer de penser en amont l'impact concret. Hein, vous en avez parlé, Taïna, l'impact concret sur moi, sur mon équipe rapprochée, sur l'organisation, bien sûr, sur les élèves, puisqu'ils sont au cœur de la mission. Alors, c'est des questions sur lesquelles on peut se pencher, réfléchir en amont, mais peut-être aussi les bénéfices. Comment on pourrait voir ça autrement? Et s'il y avait du positif dans cette décision-là, dans cette approche-là, dans ce changement-là, aussi petit qu'il soit, qu'est-ce que ça pourrait être? Et parfois, il faut aussi accepter d'être devant son équipe et pas avoir la réponse. Dire, je sais que c'est la bonne, je veux qu'on se rallie, je veux qu'on regarde ensemble et les bénéfices escomptés peut-être à moyen terme, à long terme sur cette décision-là, puis cette façon de voir les choses-là, accepter qu'on ne détient pas toute la vérité et mettre l'équipe à contribution.
Annie, Mathieu, est-ce que ça vous est déjà arrivé, sans vous mettre dans l'eau chaude aujourd'hui, en grande révélation ou quoi que ce soit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être à l'aise avec une orientation, mais de devoir la communiquer? Comment vous vous êtes pris?
Effectivement, ça nous est tous arrivé parce que dans les centres de services, on dépend aussi de gens à l'externe, donc des décisions ministérielles, des décisions gouvernementales, tout type de décisions. Donc, je pense que Nathalie avait exactement la bonne approche. Il faut décortiquer la décision et voir à quel endroit on peut trouver l'élément qui va dire oui, effectivement, je vais mettre de l'avant cet élément-là de la décision. Parce que il est clair qu'il y a certaines décisions qui sont plus dures à défendre que d'autres. Tu sais, on a vécu dans les dernières années des périodes de coupures budgétaires. C'est difficile de se rattacher et de dire on prend les bonnes décisions. On a un contexte budgétaire, donc on prend les meilleures décisions à l'intérieur de ce contexte-là. Donc, on ne met pas l'emphase sur la décision budgétaire, on met l'emphase sur les décisions qu'on a prises dans le grand contexte qu'il était. Donc, ça aide de dire, écoutez, il y a des éléments qui sont hors de notre contrôle. On tente de prendre les meilleures décisions possibles dans le contexte actuel que l'on vit. Donc, je vous dirais que c'est très, très important parce que si on se présente devant un groupe ou une équipe réduite et qu'on n'est pas d'accord, ça va se sentir immédiatement. Et là, on va vraiment, ça va être très, très difficile de mobiliser. Donc, parce que dire, même lui n'y croit pas. Donc, quoi nous, on y croirait?
En terminant, à tous les trois, si vous aviez un mot à dire, une suggestion, un conseil aux cadres scolaires qui nous écoutent, qui peut-être ça fonctionne plus ou moins bien dans leur milieu actuellement, peut-être qu'ils sont nouveaux à titre de gestionnaire, qu'est-ce que vous suggériez pour mobiliser les équipes?
Moi, j'aurais envie de revenir avec ce qui a été nommé au tout début de notre balado en lien avec l'introspection. Apprendre à se connaître soi-même, je pense que c'est le premier pas qui va nous mener à mieux connaître nos équipes et à gagner en crédibilité pour la suite des choses.
Deux choses. Donc, on parlait de viser l'excellence tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais il faut aussi s'installer dans une culture d'amélioration continue. Donc, l'idée, c'est pas d'atteindre nécessairement l'excellence le plus rapidement possible, mais c'est de toujours avancer et d'éviter de reculer. Donc, ça, c'est très important. Et je vous dirais de se rattacher à la mission. On a la chance, dans les centres de services, de travailler à la plus belle mission qui existe, former l'avenir. Donc, c'est très, très facile de se mobiliser quand on est dans une mission qui est plus grande que nous.
Je me rallie aux suggestions déposées par mes acolytes, puis j'ajoute ralentir pour ressentir. Tout va très vite. Tout va vraiment vite. On porte plusieurs chapeaux. On pallie au manque de certains employés qui doivent s'absenter. On prend ça sur nous parce que nous, on se sent capable de le faire. Puis on oublie que ralentir, c'est souvent un allié. Donc, prendre le temps de ralentir, c'est vrai, Annie, apprendre à se connaître, oser aller voir à l'intérieur quelles sont les émotions que je suis en train de vivre en ce moment. Nommer l'émotion, c'est passé, je dirais, d'aller voir le message derrière l'émotion. Puis ça, on est capable d'aller voir le message de changement. Et il y a là toute une vérité. C'est pas évident à faire. Ça arrive pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut ralentir, prendre une marche avec soi-même, embrasser le silence pour laisser émerger peut-être des réponses. Puis seulement qu'à partir de là, on va être capable d'accompagner nos équipes, les mobiliser. Juste de pas oublier que tout part probablement de soi, en tout cas dans plusieurs des situations.
Nathalie Poirier de Lab Connexion, Annie Goyette du Centre de services scolaires Laval, Mathieu Desjardins du Centre de services scolaires de Montréal. Ça a été un plaisir de vous entendre, de vous accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci.
Merci, Taina.
Alors, on se dit à bientôt. Si vous avez des suggestions de thèmes, d'invités, on vous lit. Si vous nous écoutez, nous, on vous lit. Tous les balados sont disponibles sur notre site www.aqcs.ca. À bientôt. L'AQCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise, pour leur soutien dans la production de la série Balada QCS.